Le débat africain. Alain Foucault.
Symbole colonial pour les uns, facteur de stabilité économique pour les autres. Il n'en finit pas de susciter les commentaires les plus passionnés. Cette fois-ci, c'est l'Italie qui sonne la charge contre lui. Selon ses deux vice-présidents de conseil, il est un outil d'appauvrissement des Africains. Il empêche le développement du continent. Une sortie qui évidemment relance de plus belle la polémique, le débat sur cette monnaie utilisée dans 14 pays subsahariens par 155 millions de personnes. Alors, le CFA est-il un handicap ou une opportunité pour les pays africains? Est-il un frein pour le développement ou un élément de stabilité? Doit-on envisager de l'abandonner ou devrait-on la considérer comme une monnaie qui permet l'intégration? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au CFA, avec plusieurs invités à la fois au téléphone et dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux. D'abord, Monsieur Kako Nubukpo, économiste, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, ancien directeur de la francophonie numérique au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pourfendeur de cette monnaie qu'il définit comme un héritage colonial et post-colonial. Il est en direct aujourd'hui de Marseille. Bonjour, Monsieur Kako Nubukpo.
Bonjour.
Second invité, en direct cette fois-ci de Milan, en Italie, Alain Conciu, cofondateur et directeur général de Enco Capital, un fonds d'investissement axé sur l'Afrique, qui a remporté la semaine dernière à Londres le prestigieux prix EuroEdge Emerging Markets 2018 pour les marchés émergents. Bonjour, Monsieur Alain Conciu.
Bonjour.
Troisième invité dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, Mahaman Alassane Touré, le directeur des opérations de marché à la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire celui qui s'occupe du fameux compte d'opération qui suscite tant de fantasmes et d'interrogations. Il va pouvoir, on l'espère, nous apporter des réponses, des éclaircissements. Bonjour, Monsieur Mahaman Touré.
Bonjour, Monsieur Foucault.
Alors, une littérature très fournie s'est développée depuis plusieurs années maintenant, avec pour cible le franc CFA. Littérature soutenue maintenant par des dirigeants subsahariens et chose plus récente par des responsables européens, notamment les deux vice-présidents du Conseil italien qui, la semaine dernière, en parlaient comme un outil d'appauvrissement de l'Afrique. Sur notre antenne, Fanny Pigeot, co-auteur avec Saint Basile, des larmes invisibles de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, c'est le titre, parle d'un instrument de servitude. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Mahaman Alassane Touré, vous qui êtes techniquement dans la gestion de cette monnaie à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En toute honnêteté, le CFA est-il une monnaie de servitude ou non? Est-ce une monnaie qui est tenue par la France comme on l'entend ça et là?
D'entrée de jeu, je vais vous dire, quand j'entends le mot servitude, je l'entends comme une insulte, comme un mépris vis-à-vis de tous ceux qui ont pu œuvrer pour construire et maintenir et entretenir cette monnaie qui sert 120 millions de personnes dans l'UEMOA. C'est comme si 8 États qui se sont mis de façon solidaire autour d'une monnaie, n'étaient pas en mesure d'avoir le jugement nécessaire pour savoir ce qui est bon pour leur population.
Oui, mais dans le même temps, quand on dit CFA, vous savez bien la charge symbolique qu'il y a autour. On sait que c'était au départ comptoir français d'Afrique. Comment expliquer que aussi longtemps après, on se serve de la même monnaie? Comment ne pas penser que cela sert les intérêts de l'ancienne puissance colonisatrice?
Tout simplement parce que les gens n'ont pas su se détacher du sigle. Le mot CFA a évolué dans l'histoire. Et aujourd'hui, le sigle ne veut plus dire la même chose. Et aujourd'hui, encore une fois, par rapport à cette monnaie-là, il faut avoir une position qui est très claire. Il ne faut pas renier son histoire. Effectivement, ce mot CFA, cette monnaie est chargée, mais il faut l'assumer. Il ne faut pas avoir de honte à assumer son histoire.
C'est comme... Oui, mais assumer l'histoire peut être aussi une façon de dire, bon, on tourne le dos à cette monnaie-là qui était créée par le colonisateur à l'époque et on en crée une autre.
Ben, je vais vous donner un exemple, M. Foucault. Durant la colonisation, les colons ont créé des chemins de fer, ont laissé des édifices publics. Nous n'allons pas les détruire au motif que ça nous rappelle l'époque coloniale. Bien au contraire, nous allons utiliser ces édifices, nous allons les améliorer, nous allons les renforcer, nous allons les adapter à nos besoins. Donc il n'y a aucun problème avec un héritage colonial. Il faut l'assumer, il faut l'utiliser dans le sens de ce qui nous arrange en tant que...
qu'Africain aujourd'hui.
Absolument.
J'ai envie de poser la question à M. Kako Nubukpo, qui lui est à Marseille, qui pense que c'est un élément de servitude, un outil néocolonial. Pourquoi pensez-vous cela, M. Kako Nubukpo?
C'est une monnaie de servitude dans la mesure où nos banques centrales ont pris leur indépendance vis-à-vis des États et passe bizarrement, non pas à la Banque Centrale Européenne qui émet l'euro auquel le CFA est garanti, mais qui passe par le Trésor français, donc le ministère des Finances d'un pays étranger, pour garantir cette monnaie, les billets de banque sont exclusivement fabriqués en France. Le franc lui-même n'existe plus, mais le CFA, le franc CFA existe toujours. Je crois vraiment que les symboles...
L'essentiel de ce que vous dites est essentiellement dans la symbolique.
Ah oui, parce que n'oublions pas que dans les trois fonctions de la monnaie, unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur, la fonction d'unité de compte est peut-être la plus fondamentale. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que les Américains ne comptent pas en yens, que les Japonais ne comptent pas en euros. Il n'y a pas de raison que nous comptions en franc CFA, qui reste pour moi le franc des colonies françaises d'Afrique.
Alors, je me permets de réagir sur ça. Je suis désolé, mais encore une fois, il ne faut pas faire d'amalgame entre la fabrication du billet et l'appropriation de cette monnaie par les populations. Il faut le dire, je suis désolé, en réalité, en Afrique, seulement 8 pays sur les 54 que compte le continent impriment leur propre monnaie. Et ça ne remet pas en cause leur souveraineté de ceux qui ne le font pas. En zone euro, les pays qui ont délégué la gestion de la monnaie à la BCE n'ont pas remis en cause leur souveraineté. La fabrication d'une monnaie fait appel à une technologie qui n'est pas disponible sur le continent. Aujourd'hui, vous prenez dans certains pays qui ont adopté les cartes d'identité biométriques et le passeport biométrique, le fait de le faire fabriquer à l'extérieur ne remet pas en cause la souveraineté. Il ne faut pas s'attacher au symbole, mais plutôt à l'efficacité de l'outil.
Alors, parce que ça dit beaucoup sur notre état d'esprit, sur notre mentalité, sur notre servitude volontaire.
Non, peut-être la vôtre, mais pas. Il ne faut pas dire que ce qui se conçoit pour 120 millions de personnes, c'est de la servitude. Je ne suis absolument pas d'accord.
On va donner la parole à M. Kontchou. Pour vous, lorsque vous écoutez cela, est-ce que c'est un outil de servitude, le CFA ?
La réponse toute courte, c'est bien entendu non. Je pense qu'il faut vraiment que nous, les Africains, on commence à dépassionner ce débat et se recentrer justement sur les choses essentielles par rapport justement à la monnaie et son utilisation. Le fait que ce soit fabriqué en France ou en Europe, vraiment, ce n'est pas ça le problème. La véritable question de savoir, c'est comment elle sert nos économies. Et qu'est-ce que nous faisons justement pour que justement elle puisse servir nos économies ? Et qui plus est, en faisant autant de critiques, n'est-ce pas, et de propositions, enfin, et de propos tels qu'on a pu en avoir, est-ce qu'on a comparé la dynamique qu'il y a tout autour de nous, n'est-ce pas, dans des pays similaires en Afrique ? Personne n'en a parlé et personne ne nous est venu nous donner justement une alternative qui soit viable dans notre contexte. Maintenant, je vais vous dire, moi, pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de choses erronées dans ce débat. La première chose, c'est quoi ? C'est qu'effectivement, le CFA couvre une population d'environ 170 millions. 170 millions de personnes pour qui, n'est-ce pas, qui partagent la même monnaie, qui a un taux relativement fixe, n'est-ce pas, qui est fixé par rapport à l'euro, qui leur confère une inflation faible, une stabilité monétaire, entendu peut-être pas la marge pour pouvoir étendre justement la masse monétaire, mais quand même une stabilité. Voilà un environnement qui, bien exploité, devrait pouvoir profiter à une zone économique si elle prenait dans les mêmes droits, si elle prenait la démarche beaucoup plus profonde de s'intégrer, pas d'un point de vue économique, de diversifier justement leur économie et d'attirer des investissements à long terme, n'est-ce pas, qui, nonobstant justement une devise stable, serait plus confortable.
Alors, on va parler en français facile pour les gens qui, comme moi, ne comprennent pas toujours les grandes théories économiques. Monsieur Kontchou, très concrètement, les gens vous disent « cette monnaie ne nous appartient pas et elle est surévaluée ». À cette question-là, que répondez-vous ? Puisque c'est le reproche que l'on lui fait.
Justement, le principe selon lequel nous appartient pas, je ne suis pas sûr de pouvoir mesurer la notion d'appartenance. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'une monnaie est baqué, si je peux me dire, n'est-ce pas, par rapport à un certain montant de réserves. Ces réserves doivent être investies dans une monnaie étrangère qui, justement, essentiellement, est la monnaie d'échange, n'est-ce pas, économique de ces pays-là. Mmh. Donc, que vous ne possédez pas votre monnaie, je pense que votre point, on peut faire référence, c'est qu'on n'a pas de marge de manœuvre par rapport à notre politique monétaire, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, elle est ancrée, justement, dans notre monnaie. Soit, mais qu'on a une monnaie stable qui peut permettre à des investisseurs de venir et savoir que sur du long terme, ils ne vont pas avoir affaire à des monnaies qui bougent du jour au lendemain.
Qui fluctuent. Oui, rapidement. Oui.
On parle justement de compétitivité. Et ça, je l'ai vu dans un article récent. Mais il n'en demeure pas moins que quand on prend des pays tout autour de nous, le Ghana, le coût minimum horaire de travail, c'est d'environ 80 dollars par mois. Nigeria, pareil, 30 000 naira vient d'être voté récemment. En Afrique francophone, on est entre 50 et 60 000 dons, disons autour de 90 euros. Ceci, ce n'est pas une différence notable, elle n'est pas importante, cette différence, quand on le parle. C'est pratiquement le même coup, sauf que dans un cas, vous avez des pays qui ont fait face à 50% de dévaluation de leur monnaie au cours de ces trois dernières années à cause des matières premières, comme le Ghana, le Nigeria, 60%, n'est-ce pas, l'Égypte, 50% d'évaluation et une inflation à 15%. Eh bien, vous savez, moi, d'un point de vue purement économique, je préfère être dans une zone où, si j'ai accès à un marché de taille de 170 millions de personnes avec des infrastructures qui tiennent la route, eh bien, ce serait pour moi un avantage beaucoup nettement meilleur à investir, n'est-ce pas,
Avant de revenir à vous, j'ai envie d'entendre Kako Nubukpo réagir à ceci.
Oui, bon, Alain, c'est que nous avons déjà eu ce débat. Moi, quand je vois les chiffres, il y a effectivement un problème de compétitivité de la zone franc. J'ai le taux de couverture du commerce extérieur dans l'UEMOA n'est que de 74%. C'est-à-dire que nous exportons beaucoup moins que nous n'importons. C'est quand même ça le cœur de la question. C'est-à-dire le haut de la balance des paiements, il est structurellement déficitaire.
C'est-à-dire pour vous, vous estimez que cela ne permet pas, on va dire, de produire localement, c'est ça?
Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez une monnaie forte pour des économies faibles, c'est un frein pour vos exportations et c'est une incitation pour vos importations.
Monsieur Fouca, oui, si la monnaie posait ce problème-là, nos pays n'auraient pas enregistré les performances économiques que nous connaissons. Pour le dire très simplement, l'UEMOA aujourd'hui, en 2017, a réalisé un taux de croissance de 6,8%. C'est le taux de croissance le plus élevé sur le continent africain. Le taux d'inflation a été de...
Il faut préciser que l'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africain.
Absolument. En termes d'inflation, le taux d'inflation n'a pas dépassé 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Une croissance forte, une faible inflation, un pouvoir d'achat des populations qui a été préservé. Et ensuite, cette monnaie, bien au-delà de ces facteurs-là, a permis d'amoindrir les crises que plusieurs de nos pays ont traversées. Amoindrir les crises, pourquoi ? Parce que ça préservait le pouvoir d'achat, mais ça surtout rassurait les investisseurs. Et donc, ça a permis, au moment où les pays sortaient de crise, de redynamiser les économies et de permettre une croissance qui revenait à un rythme beaucoup plus rapide. Donc, au-delà des questions de compétitivité, il faut rappeler que cette monnaie a un certain nombre de bénéfices qui sont tangibles. Et la problématique de la surévaluation, la dernière étude du Fonds monétaire international sur la question, qui est quand même une institution sérieuse, a démontré que le franc CFA n'était pas surévalué, que le franc CFA était en ligne avec les fondamentaux. Donc, jusqu'à ce qu'on vous apporte des études, on va dire...
Contradictoires,
la voix du Fonds monétaire international est pour moi celle qu'il faut écouter et la conclusion, elle est connue. Le franc CFA n'est pas une monnaie surévaluée.
Alors, on va poser la question à Kako Nubukpo. Est-ce qu'elle est surévaluée? Sur quoi on s'appuie alors puisqu'il parle des fondamentaux?
Il y a quelque chose qu'on appelle en économie le degré de mésalignement qui nous permet de savoir exactement si une monnaie est surévaluée ou pas. Et donc, il y a un problème de compétitivité au sein de la zone franc que personne ne peut nier. Et je donne l'exemple du solde extérieur courant, hors don, qui est excessivement déficitaire. Après, je prends ce qu'on appelle le déficit budgétaire, qui est excessivement déficitaire.
Le débat n'est pas un débat de comptabilité publique. Il faut aller sur l'essentiel. Les performances économiques sont là. Comment vous allez faire une croissance étant la plus élevée sur le continent? On ne peut pas parler tous ensemble.
On parle à des millions de personnes. Et ces millions de personnes ne sont pas des techniciens de l'économie. Et c'est ces millions de personnes qui manifestent aujourd'hui pour ou contre le CFA. Donc peut-être que si on veut leur parler et qu'ils aient un vrai regard sur le CFA, il faudrait descendre à leur niveau. Moi-même, lorsque vous parlez de temps en temps, je ne comprends pas trop où on va. Alors, soyons très très concrets. On a dit, le CFA est un handicap à l'industrialisation, à la transformation sur place des matières premières. Là, à l'instant, M. Kako Nubukpo le démontrait à sa manière. Alain Conchou, est-ce que c'est vrai qu'avec un CFA comme celui-là, c'est un vrai handicap pour l'industrialisation et la transformation sur place des matières premières? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, dans cette zone UEMOA dont vous parlez, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, on ne transforme pas vraiment de la matière première. Est-ce à cause de la monnaie?
Factuellement, la réponse actuellement, c'est non. En fait, j'ai tenté de vous illustrer cela justement par la notion justement des coûts horaires, en fait, n'est-ce pas, de salariés dans la région, qui sont comparables à ceux d'autres pays voisins. Et d'autres points de départ, d'ailleurs. en matière de production manufacturière, ça représente 3% du PIB. Donc, visiblement, on n'est pas des pays exportateurs de spa, de produits transformés. C'est clair. On fait essentiellement justement des matières premières brutes. Voilà ce qui se fait en général. Bon, évidemment, afin de pouvoir créer une situation où nos économies peuvent dépendre moins des cycles des matières premières, il faudrait qu'on les diversifie, qu'on les oriente un peu plus dans le secteur manufacturier et des services. Et pour ce faire, effectivement, la compétitivité du travail est un élément, mais ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Il ne faut pas oublier la politique fiscale qui va avec, n'est-ce pas ?
La politique fiscale, oui.
Et la politique fiscale du point de vue des taxes, par exemple, n'est-ce pas ? Du coût des douanes, du coût justement du travail, et aussi justement la capacité de ces États à attirer justement les investissements directs étrangers. Et moi, je vais vous dire, de notre part, notre profession, on investit dans beaucoup de pays en Afrique, mais l'un des facteurs qui vous interpelle à chaque fois que vous allez vous prendre une telle décision, eh bien, c'est de savoir quel est le potentiel de volatilité de la macroéconomie. En d'autres termes, n'est-ce pas, la volatilité justement des cycles économiques, du taux de change, et ainsi de suite. Entrer dans une zone où, effectivement, à coût comparable, vous avez la perspective d'une monnaie relativement stable dans le futur, je pense que c'est une valeur de proposition. En tout cas, les Africains devraient prendre ça comme étant un outil qui pourrait leur permettre d'accélérer leur processus de développement et d'ouverture justement de leur économie en matière de diversification et d'intégration, afin de pouvoir justement créer des conditions justement de croissance.
Alors, j'entends Kako qui réagit à ce que vous dites.
Je suis surpris que vous rameniez toute la stabilité macroéconomique à la seule stabilité monétaire. Vous savez bien que le problème qu'on a dans la zone franc, c'est que la stabilité monétaire induit l'instabilité du système réel via la répression financière. Et donc, la question, c'est de savoir quel trade-off on fait entre la stabilité monétaire et la capacité de ce système monétaire à engendrer du crédit, des investissements et donc à engendrer la transformation structurelle des économies.
Mon Dieu, c'est très compliqué. Monsieur Kako, parlez pour nous aussi. Très concrètement, ce que vous reprochez à ce que dit Alain Kontchou, c'est quoi exactement? En langage facile, en français facile, comme on dit sur notre antenne.
Je dis, il ne faut pas que la stabilité monétaire qu'on nous vend soit une stabilité artificielle, parce que le coût de cette stabilité, en termes réels, en termes de capacité à produire de la richesse, soit très élevé. Quand je prends les taux d'intérêt réels en zone franc, ils sont supérieurs à deux chiffres. Et donc ça, c'est bizarre, parce que pour une monnaie forte et une zone qui a un taux d'inflation aussi faible, le prêteur n'a pas de risque de perte en capital, et donc ce qu'il exige comme prime de risque devrait être très faible. Or là, vous avez des taux d'intérêt à deux chiffres, ça veut dire que les prêteurs ne pensent pas que la zone soit si stable.
Ils ne sont pas confortables.
Je pense que vous l'avez précisé, le débat a vocation à ce que tout le monde comprenne. Et il y en a qui manifestement utilisent des termes, utilisent une démarche que très peu de gens vont comprendre et entretiennent ainsi la confusion de façon inutile. Moi, je voulais dire, Monsieur Foucault, souvent le CFA fait l'objet de critiques inutiles. Le CFA, c'est une monnaie qui sert aujourd'hui à 120 millions de personnes. C'est une monnaie qui permet aujourd'hui à des économies d'être performantes, d'afficher des taux de croissance qui sont vérifiables parmi les plus élevés sur le continent, d'avoir une inflation basse. Sur votre question concernant le développement de nos pays, à savoir est-ce que la monnaie est un frein ou non, la réalité c'est que la monnaie à elle seule ne règle pas tout. La monnaie s'inscrit dans un dispositif global où s'expriment également des politiques de développement, des politiques économiques et, comme a dit Monsieur Kontchou, parfois des politiques fiscales. C'est dans cet ensemble-là que s'insère la monnaie et qui permet de régler des problèmes de compétitivité, d'exportation, etc.
Mais il y a pas mal d'autres aspects qui sont évoqués justement dans la critique faite au CFA. On va en parler dans une dizaine de minutes dans la seconde partie du débat africain, notamment cette question du compte des opérations où on est obligé de déposer 50% des réserves pour pouvoir avoir cette convertibilité. On va parler dans la seconde partie du débat africain de cette question-là et puis nous serons toujours en compagnie d'Alain Kontchou, de Kako Nubukpo et vous-même. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute.
Le débat africain Alain Foucault.
Monnaie de servitude pour les uns, facteur de stabilité économique pour les autres. Le CFA continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais quelle est la réalité de cet instrument? À qui profite-t-il? À la France ou aux pays africains? Le franc CFA, ami ou ennemi des économies africaines? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à cette monnaie qui passionne et divise. Question de sortir un peu de la simple passion, de la charge symbolique qui biaise l'analyse objective. Trois invités donc pour en parler. D'abord, Monsieur Kako Nubukpo, économiste, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, ancien directeur de la francophonie numérique au sein de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Pourfendeur de cette monnaie qu'il définit comme un héritage colonial et post-colonial. Il est en direct aujourd'hui de Marseille. Second invité, en direct cette fois-ci de Milan, en Italie, Alain Conciu, cofondateur et directeur général de Enco Capital, un fonds d'investissement axé sur l'Afrique qui a remporté la semaine dernière à Londres le prestigieux prix EuroEdge Emerging Market 2018. Pour les marchés émergents, vous l'avez bien compris. Troisième invité dans ce studio 41 de RFI à Issy-les-Moulineaux, Mahaman Alassane Touré, le directeur des opérations de marché à la BCAO, c'est-à-dire celui qui s'occupe du fameux compte d'opération qui suscite tant de fantasmes et d'interrogations. Il va pouvoir, on l'espère, nous apporter des réponses, des éclaircissements sur ce compte qui fait tant parler. Alors, j'ai envie de poser la question tout de suite, monsieur Touré. C'est quoi exactement le compte des opérations où les pays africains sont obligés de déposer la part obligataire de leurs réserves de change, 50%, en contrepartie de la garantie de convertibilité? Comment comprendre que l'on puisse déposer tant d'argent pour assurer la convertibilité?
Je pense que c'est l'occasion d'apporter des éclaircissements sur un sujet où bien des personnes se sont improvisées spécialistes. Et de par mes fonctions, moi je peux vous en parler de manière très claire. Le franc CFA bénéficie d'une parité fixe et d'une garantie de convertibilité illimitée avec le Trésor français. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais les pays qui ont signé cet accord-là se retrouvent sans devise, le Trésor français leur donne une ligne de crédit illimitée pour leur permettre de continuer à exécuter des opérations financières pour le besoin des États, pour le besoin des opérateurs économiques. Voilà de quoi il s'agit. Et maintenant, dans le détail.
Mais est-ce que ça fait pas beaucoup d'argent de déposer 50%?
C'est un mécanisme qui n'a absolument rien d'insolite. C'est une pratique bancaire tout à fait normale. Si aujourd'hui vous allez voir votre banquier et que vous demandez une ligne de découvert, votre banquier va vous demander de domicilier une partie de votre salaire, ce qui va garantir la mise en place de ce découvert-là en cas de besoin. Donc c'est une pratique qui a une rationalité financière. Et les ressources qui sont détenues dans ce compte sont disponibles en permanence et sont rémunérées par le Trésor français. Donc le compte d'opération n'a absolument rien d'insolite. C'est la contrepartie de la garantie de convertibilité que donne le Trésor français.
Mais est-ce que ça fait pas beaucoup quand même 50%?
Justement. Il faut voir que dans l'histoire, ce taux a évolué. Il a été de 100%, il a été de 65%, aujourd'hui il est de 50%. C'est la moitié de nos réserves de change. Cette moitié, c'est pour avoir une garantie de convertibilité illimitée et un taux de change fixe. L'autre moitié est gérée en totale autonomie. Et celle qui est dans le compte d'opération est disponible en permanence. Donc ce mécanisme aujourd'hui qui suscite tant de passion, c'est parce que les gens ne le comprennent pas. Et que certains l'instrumentalisent pour montrer que c'est comme un outil d'asservissement. Et ça me permet d'aborder d'ailleurs dans ce cadre-là...
On va revenir là-dessus, mais j'ai envie d'entendre M. Kako Nubukpo sur la question.
Voilà, c'est la Banque Centrale Européenne qui émet l'euro. Ce n'est pas le Trésor français ni la Banque de France qui émettent l'euro. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de compte d'opération auprès de la Banque Centrale Européenne? Pourquoi nous devons passer par la France?
Je vais réagir à ça parce que c'est une confusion. Les coopérations monétaires ne se font pas avec une banque centrale, mais ça se fait avec le Trésor.
Oui, mais justement, c'est ça le problème. Pourquoi les banques centrales de la zone franc, qui sont indépendantes des États africains de la zone franc, ne négocient pas directement avec la Banque Centrale Européenne qui émet l'euro, monnaie?
Qu'est-ce qui vous pose problème? C'est le mécanisme ou bien c'est le signataire? Mais dites-le nous clairement. Si votre problème c'est la France, dites-le. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité d'un mécanisme.
Votre problème, c'est que vous trouvez normal que des banques centrales indépendantes ne traitent pas avec d'autres banques centrales, mais traite avec le ministère des Finances d'un pays étranger.
Et mais M. Kako, il y a une coopération. C'est une coopération et la coopération, elle a plusieurs formes. Aujourd'hui, avec la France, nos États ont parfois une coopération militaire. Ça ne pose aucun problème.
Alors, on va poser la question aussi à une troisième personne qui est également spécialiste de la chose. Alain Kontchou, ce compte des opérations de change, est-ce que ça vous convient? Et comme le dit M. Kakonobukpo, est-ce qu'on ne devrait pas le faire avec la Banque Centrale Européenne?
Écoutez, je suis assez surpris qu'on soit aussi émotif par rapport à un sujet de compte d'opération. Mais avant d'émettre toute forme de jugement d'opposition, regardons aussi ce qui se passe tout ailleurs. Toute banque centrale a pour, entre autres, fonction de constituer des réserves pour le compte d'un pays qui servent, n'est-ce pas, de monnaie d'achat de certains, justement, des exports et pour payer, entre autres, justement, la dette en monnaie dure. Donc, je ne vois pas ce qu'on fait, justement, au travers du compte d'opération qui est différent de ce que fait la Banque centrale du Nigeria ou du Ghana ou de l'Égypte. Toute banque centrale se doit de constituer des réserves. Et qui plus est, ces réserves sont en monnaie étrangère, qui sont domiciliées dans une banque ou dans une banque centrale équivalente, laquelle sert justement, n'est-ce pas, de dépositaire. Donc voilà, donc je ne vois pas. Et il n'y a aucun problème que les Africains de la zone CFA aient justement à déposer cela auprès du garant. Qui plus est, garantit cette monnaie. Je pense qu'il faut bien qu'on comprenne. On dit garantie, c'est-à-dire taux de change fixe. La BCE n'a pas vocation à émettre de la monnaie pour le compte d'un pays, non. Elle le fait pour les États, justement, qui en font partie. Ça, c'est un accord que nous, on a avec la France et qu'on a décidé d'avoir parce que, justement, dans une certaine manière, elle sert nos intérêts et elle pourrait mieux servir nos intérêts. Donc voilà, quoi. Je ne vois pas pourquoi ça devrait faire l'objet de tels passifs de frappe.
Je vais rajouter quelque chose, M. Foucault. Le compte d'opération, c'est un compte parmi 32. Aujourd'hui, au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, nous avons 32 comptes. Le compte d'opération ne représente qu'un seul compte. Les 32 comptes s'expriment dans 8 devises. Donc, nous pouvons exécuter en toute liberté toute opération financière pour le compte
oui,
de nos États.
Là, vous anticipez sur la question que j'avais envie de poser.
C'est la suite logique.
On vous a souvent perçu comme étant, on va dire, une annexe du Trésor public français en Afrique. Est-ce que la BCAO est libre?
Je vais vous dire, la BCAO est absolument libre. Il faut voir, rappeler également les instances qui gouvernent le franc CFA. L'instance suprême, c'est la conférence des chefs d'État. Quand on prend la zone UEMOA, il y a 8 chefs d'État. Que je sache, nos États sont souverains. En dessous, c'est le Conseil des ministres des Finances. Je n'ai jamais vu un ministre des Finances français siéger au sein de cette instance.
Mais on ne peut pas dire exactement la même chose, les BEAC.
Je ne peux pas parler pour le compte de la BEAC. Moi, je vais parler pour le compte de la zone UEMOA. Je vais parler pour le compte de la zone UEMOA. Ensuite, nos États ont délégué à la BCAO la gestion de la monnaie. Mais la BCAO le fait en toute indépendance.
Vous n'avez pas le responsable du ministère des Finances français qui
siège. C'est absolument faux. Il y a un seul comité dans lequel siège un représentant de la France. C'est le comité de politique monétaire qui compte 16 membres. Donc parmi les 16, il y en a un seul et qui est là pour des questions techniques. Et sa voix n'est en rien prépondérante, c'est celle du président de ce comité, à savoir le gouverneur de la Banque Centrale, qui est prépondérante. La deuxième instance où on peut en retrouver un, c'est le conseil d'administration. Mais c'est tout à fait normal d'avoir dans son conseil d'administration un représentant de la partie avec laquelle on a signé un accord de coopération. Mais en aucun cas, leur avis est prépondérant. Donc, une fois, c'est une légende tout ça. C'est une légende.
Ce qui compte, c'est la capacité à avoir confiance en soi et à se dire qu'on peut piloter une monnaie. Cette tutelle française qu'on observe à tous les niveaux pose problème. Le cœur de mon raisonnement, c'est de dire que dans une zone où la population double tous les 25 ans, l'enjeu, c'est de financer les activités, financer l'emploi et donc sortir de l'extraversion économique qui est quand même le modèle que nous avons depuis 50 ans. Et donc, pour aller vers ce marché intérieur, il faut que nous ayons des instruments adaptés à cela. Et c'est ça le cœur de notre discussion. Quelle est la vision des dirigeants? Quelles sont les modalités pratiques d'atteinte de cette vision? Et quels sont les mécanismes de suivi et évaluation que nous mettons en place pour dire que nous avons une bonne politique monétaire? Donc, la question du fonctionnement interne de la Banque centrale et de savoir s'il y a un Français ou non dans le conseil d'administration, je pense que là où nous attendons la BCAO, c'est dans sa capacité à accompagner les États à faire la transformation structurelle de nos économies.
Est-ce que la transformation structurelle des économies passe par le changement de monnaie?
Disons que ça passe en tout cas par le financement des activités, la transformation des matières premières et l'accroissement des capacités à affronter la mondialisation. Et je sens une certaine frilosité issue des inerties institutionnelles des années d'indépendance qu'à mon avis nous devrions dépasser pour affronter résolument la mondialisation.
Bien. Alors pour vous, pour affronter la mondialisation, il faudrait peut-être changer cette monnaie-là, si j'ai bien compris.
Par exemple,
par exemple.
Nos partenaires commerciaux ont beaucoup évolué en 50 ans. Vous voyez aujourd'hui la place de la Chine dans notre dispositif commercial. Pourquoi nous ne pourrions pas envisager un franc CFA rattaché à un panier de devises?
Mais ça serait quand même le franc CFA.
L'évolution de notre commerce international.
Ça serait toujours le franc CFA?
Ben moi, je pense qu'il faut changer de nom parce que le nom dit beaucoup de choses.
Alain Contiou?
Évidemment, le nom, on est indifférent par rapport au nom. C'est l'histoire, on peut le changer, mais le tout, c'est de savoir quelle en est l'utilité. Mais quand on me dit qu'on peut commencer à faire rattacher le franc CFA par rapport à un basket justement de devise qui reflète justement notre balance de paiement, je veux dire, d'accord, mais est-ce qu'on a vu un peu ce qui se passe dans les pays aux alentours? Je pense qu'il faudrait vraiment que l'on essaie de repenser un peu à comment on se situe vis-à-vis justement dans l'écosystème, en Afrique de manière générale. La plupart des pays dont on parle, dans notre zone, n'est-ce pas, et même au-delà, sont essentiellement producteurs de matières premières. Ce qui veut dire que leur cycle économique est essentiellement basé sur le cycle des prix de ces matières premières. Et ça veut dire que quelque part, ils ont moins de contrôle justement sur la manière dont ils génèrent des revenus dans le temps et effectivement se trouvent souvent dans des situations un peu difficiles lorsque justement on a des baisses comme ceux qui sont passés justement il y a 2 ans. Sauf que, on l'a bien vu, dans le cas d'autres pays qu'on peut voir tout autour, essentiellement basés sur le pétrole, on a eu une situation macroéconomique où la monnaie a dû, n'est-ce pas, être dévaluée.
S'effondrer.
Il y avait des pressions assez fortes sur leur capacité justement de pouvoir faire face à leur paiement. Et ça a entraîné de l'inflation et de l'appauvrissement en termes nets, puisque effectivement la part des exports, n'est-ce pas, que l'on pourrait peut-être gagner en compétitivité par la dévaluation du monnaie, n'est pas au rendez-vous. Donc le principe de dire, ok, on peut justement avoir un basket et maintenant commencer à être indexé, certes, et avec toute la discipline que ça va apporter, certes, mais ce qui est sûr, c'est que la volatilité que l'on a partout ailleurs, je pense qu'on en fera aussi partie. On la subira et, répondons un peu à la question, si du jour au lendemain, on se réveille, on dit voilà, pour une raison ou une autre, on a abaissé justement la valeur de nos monnaies de 50 ou de 100%. Comment la population va réagir? Bon, personne ne sera content. Donc, d'une certaine façon, je pense qu'il faudrait qu'on reconnaisse que le CFA tel qu'il est nous sert à la fois parce qu'on n'est pas suffisamment diversifié, à la fois parce qu'il nous apporte une stabilité macroéconomique qui n'est pas négligeable, à la fois parce qu'il nous apporte une inflation faible, mais utilisons-la telle qu'elle est pour pouvoir justement développer assez rapidement ces économies, intégrer nos zones, élargir nos marchés et arriver à un tel point où la masse critique de ce qu'on représentera sera telle que la garantie ne sera plus tenable.
Mais est-ce que ce CFA si fort ne nous rend pas paresseux dans cette zone-là?
D'une certaine manière, il nous protège, n'est-ce pas, de ces chocs, c'est vrai. Mais en même temps, paresseux, on est paresseux lorsqu'on n'en profite pas pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Et les grandes lignes sont là. En fait, je répète encore, on utilise la taille de marché, 170 millions de personnes qui, en termes de libre circulation de biens, de services et de produits, devraient constituer un marché intéressant pour tout investisseur. Si effectivement il y a une politique justement qui supplémente là justement d'un point de vue fiscal.
Alors lorsqu'on vous écoute tous, on a le sentiment que on a reporté un peu la faiblesse des politiques économiques de la plupart de ces pays-là sur la monnaie, non, oui, Monsieur Touré?
Je vais vous dire, il y a souvent de l'amalgame. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans mes propos en disant que la monnaie à elle seule ne fait pas tout. La monnaie s'inscrit dans un dispositif global où doivent s'exprimer des politiques de développement, des politiques économiques, des politiques fiscales et un certain nombre de choses. Donc la monnaie à elle seule ne fait pas tout. Par ailleurs, pour réagir à la question de la diversification de nos partenaires commerciaux, je pense qu'il est important de revenir dessus. Mais c'est des choses auxquelles nous sommes extrêmement sensibles. La réalité, c'est qu'il ne faut pas précipiter les choses. Aujourd'hui, M. Nobuko ne le dit pas, mais en réalité, la zone euro reste le premier partenaire commercial de la zone UEMOA. Donc il n'y a pas de raison de changer et de précipiter les choses. Si jamais les choses évolue suffisamment, à ce moment-là, on peut revoir le modèle. Mais il n'y a pas de raison de le précipiter.
Alors, permettez aux profanes que nous sommes de s'interroger lorsqu'on écoute les deux vice-présidents du Conseil italien dire que c'est un outil qui appauvrit l'Afrique. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'a pas un peu raison? On a entendu sur cette antenne une invitée qui est l'auteur d'un livre, Madame Pigeot, dire que c'était vrai.
Je vais vous dire, et ça c'est très simple. J'ai vu effectivement et j'ai lu ce qu'elle a pu écrire Madame Fanny Pigeot, si je me trompe. En réalité, elle s'est autoproclamée spécialiste du franc CFA. Je peux vous attester une chose. Elle n'a jamais franchi le seuil des portes de la Banque Centrale pour venir faire confirmer un certain nombre de choses, notamment sur ce que nous avons évoqué tout à l'heure, le compte d'opération. Je vais vous dire, elle a dit des choses extrêmement graves concernant le compte d'opération qui laisse penser qu'aujourd'hui nous vivons sous une forme de tutelle, où elle a dit que le compte d'opération est parfois bloqué par le Trésor français et que nos États ne peuvent pas exécuter librement des opérations. Mais vous savez que cela est faux. Le compte d'opération n'a jamais été bloqué par qui que ce soit. Le compte d'opération permet à nos pays et permet à la Banque centrale d'exécuter en toute liberté des opérations pour peu que ces opérations soient licites. Et encore une fois, ce n'est que la moitié de nos réserves de change. Et donc, un seul compte parmi 32 ne permet pas de bloquer des opérations et ne permet pas d'exercer quelque forme de pression ou de sanction que ce soit.
Monsieur Touré, en service commandé, je comprends bien. Il raconte un catéchisme depuis le début de l'émission qui ne convainc personne, mais il continue. Ce que moi je veux vous dire, simplement,
je pense que c'est vous c'est qui n'avez convaincu personne.
Nous n'avons pas besoin des vice-présidents du Conseil italien pour affirmer que le franc CFA est une monnaie qui est inefficace d'un point de vue économique, qui est illégitime d'un point de vue politique et qui est inéquitable d'un point de vue social. Et c'est pour ça que moi j'en appelle à des états généraux sur la monnaie CFA.
Le franc CFA, vous dites qu'il est économiquement inefficace. Pour que les peuples
puissent s'exprimer, parce que les gens qui s'expriment au nom du peuple,
Dans le même temps, monsieur Nouboukou, j'ai envie de dire que pour que le peuple puisse s'exprimer, des ignorants comme moi, il y en a beaucoup, ils ont besoin de comprendre et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Avant que je vous donne la parole, monsieur Touré, je voudrais entendre Alain Conchou réagir à cela. Une monnaie inefficace.
Écoutez, ça ressemble encore à un autre Brexit de notre version, quoi. Mais, écoute, vous avez dit, en fait, la chose de sens. C'est qu'effectivement, avant que les gens s'expriment, il faudrait justement qu'ils savent de quoi on parle. C'est pas qu'on puisse justement leur expliquer exactement ce qui est dans les questions. Et les grands mots ne suffisent pas. Je vais donner justement un point précis, par exemple, que M. Kako...
Rapidement, parce qu'on arrive à la dernière minute de l'émission.
Par rapport justement au coût de la dette, n'est-ce pas, qui est effectivement un élément important, parce que si effectivement il est cher, a priori, ça rend la création justement des entreprises, l'investissement assez difficile. En Afrique francophone, les États empruntent entre 5 et 7% sur toutes les maturités. C'est pas possible. C'est-à-dire jusqu'à 10 ans, un État emprunte à 7%. En Égypte, il est à 9%. Au Ghana, il est à 18%. Au Nigeria, 17%. Il est à 25% en Zambie. Avec des monnaies qui se sont dévaluées, n'est-ce pas, entre 50 et 100% dans les deux dernières années. Voilà le schéma inverse de ce que l'on a chez nous. Vous voyez? Donc maintenant, dites-moi, dans quel modèle j'ai plus envie d'aller investir, dans l'un ou dans l'autre? Nonobstant beaucoup d'autres choses, bien entendu. C'est-à-dire si, effectivement, toutes les autres choses étaient légales, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais je veux dire, voilà un peu l'endroit. Donc l'idée de dire que le coût de l'argent est élevé, c'est pas faux. C'est pas vrai, en tout cas. D'accord? C'est pas vrai du tout. Il est plus faible que partout ailleurs en Afrique. Le seul problème, c'est que dans certains cas, vous pouvez avoir des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, mais ça, c'est le risque de crédit, et c'est quelque chose de complètement différent. Mais les États, en tant que tels aujourd'hui, empruntent à des conditions relativement favorables.
On va terminer dessus en deux mots.
Monsieur
Foucault,
je vois que Monsieur Kako Nobuko a le sens de la formule, mais ses propos sont faux. Il dit que le franc CFA est économiquement inefficace. Moi, je lui réponds, c'est faux. L'UE, moi, depuis 10 ans, a les taux de croissance les plus élevés et le niveau d'inflation le plus bas sur le continent. Ensuite, il dit que c'est politiquement illégitime. Je lui dis, c'est faux. Il faut assumer son histoire. Le franc CFA est un héritage colonial, mais les États le se sont approprié cette monnaie. Ils l'ont fait évoluer chaque fois que nécessaire. Et aujourd'hui, elle est gérée en toute souveraineté. Il dit que c'est socialement inéquitable. Là également, je lui réponds, c'est faux. Cette monnaie sert 120 millions de personnes. Sa gestion a permis d'avoir une inflation faible et de préserver le pouvoir d'achat des populations.
De cette émission, et je n'avais pas la prétention de clore le débat sur le CFA, mais il est évident qu'il est ouvert et qu'on doit parler entre spécialistes, entre gens qui connaissent la monnaie, puisque jusqu'à maintenant, on a entendu beaucoup de personnes qui ne savaient pas de quoi ils parlaient et qui étaient dans l'émotion. On espère que le débat va se poursuivre, qu'il y aura, comme le demande M. Nouboukou, des états généraux sur la question du CFA. Peut-être qu'il en sortira quelque chose. Merci à vous, en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre aujourd'hui. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Marjorie Bertien et Alain Foucault. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. À très vite. Restez à l'écoute de RFI.